journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 5 mois après les attentats du 7 octobre, Israël est en plein doute sur sa sécurité intérieure. Nous entendrons dans ce journal le témoignage d'une guetteuse chargée de la surveillance de la frontière avec Gaza.
Et puis nous serons au Pérou, où un énième scandale de corruption a provoqué la démission du Premier ministre. Les Péruviens sont à bout, nous l'entendrons.
En France, retour sur l'annonce de la suppression d'un certain nombre de documents administratifs par Bruno Le Maire. Pas forcément une bonne chose, disent les juristes. Après ce journal, ce sera votre question du jour, Marguerite Caton.
Qu'appelle-t-on les nouveaux OGM ?
Le gouvernement israélien avait prédit une guerre longue et de fait, le conflit à Gaza entre dans son 6e mois aujourd'hui. Le 7 octobre dernier, Israël se réveillait en état de choc en découvrant l'horreur des attaques du Hamas. La barrière de sécurité protégeant les kibboutz de la frontière avec Gaza ne réussissait pas à empêcher les miliciens islamistes de tuer près de 1200 personnes et d'en kidnapper des centaines d'autres, plongeant l'État hébreu dans la colère et la stupéfaction et soulevant quasi immédiatement les questions et les critiques sur les failles de sécurité qui ont permis ce drame. Politiquement, en effet, le contrat tacite entre les Israéliens et leurs dirigeants, censé, depuis la création de l'État en 1948, leur permettre de vivre en sécurité, est rompu. Et en attendant une commission d'enquête qui devrait commencer à travailler après la guerre, les langues se délient car, selon de nombreux témoignages, il était clairement possible d'éviter le pire. Écoutez ces soldates israéliennes en charge de la surveillance de la frontière avec Gaza. Leurs paroles ont été recueillies par notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre.
Les services de sécurité n'ont rien vu, ou plutôt, ils n'ont rien voulu voir.
Le fait que ces alertes n'aient pas été entendues, ça met super en colère en fait.
Talia, c'est un nom d'emprunt, était une tatzpitanite de l'armée israélienne, une guetteuse en hébreu.
Notre but, c'est vraiment de vérifier qu'il n'y a aucun incident.
Et seulement quelques jours avant l'attaque du 7 octobre, des tatzpitanites comme elle, installées à la lisière de Gaza, ont remarqué sur leurs écrans d'étranges mouvements de miliciens du Hamas. Elles ont averti, sans résultat.
On accorde peu d'importance vraiment aux paroles des soldates qui sont guetteuses. Nous, on est tout en bas de l'échelle, on va dire. On est la petite soldate que personne ne prend vraiment en compte. Mais bon, ils ne nous accordent pas vraiment d'importance, on va dire. Parce qu'en fait, on est jeune, on a 18 ans, on est un peu tout au bas de la hiérarchie de l'armée. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle les alertes n'ont pas été entendues. Et c'est pas normal que ça n'ait pas été pris en compte, qu'il y ait eu de telles failles. Moi, je ressens beaucoup de colère en fait envers tous ces responsables qui n'ont pas agi comme il fallait.
L'armée, les services de renseignement, la police, à tous les niveaux, les principaux dirigeants ont assumé leur tort. Michael Kobi est professeur de stratégie militaire à l'INSS, c'est l'Institut national de sécurité israélien.
Toutes les preuves étaient là. Le problème, c'est la manière dont les informations ont été analysées. C'est rien de moins qu'une catastrophe au niveau du renseignement et d'un point de vue opérationnel. C'est un échec important et c'est la première fois depuis la création d'Israël en 1948 que des communautés israéliennes ont été occupées. Des gens ont été tués dans leurs maisons. C'est un échec pour l'armée et pour l'État qui ont le devoir de défendre leurs citoyens.
Et puis, l'autre erreur majeure pour Michael Kobi, c'est la croyance absolue dans la technologie de surveillance et l'absence physique de soldats qui en découlent. Le 7 octobre, il n'était selon le chercheur que 200 autour de Gaza.
Thibault Lefebvre, Gaza depuis est soumise à une guerre totale et risque la famine alors que les discussions piétinent toujours sur une trêve humanitaire. Un calvaire dont les victimes principales, là encore, sont les civils, femmes et enfants en particulier. Jean-Pierre Delomier est le directeur adjoint pour les opérations internationales de l'ONG Handicap International. Il revient justement d'une mission à Rafah où se terrent désormais la plupart des déplacés gazaouis à la frontière avec l'Égypte. Il raconte ce qu'il a constaté sur place à Christian Chéneau.
Au cours de sa longue carrière d'humanitaire, Jean-Pierre Delomier, d'Handicap International, a vécu des situations dramatiques, mais celle qu'il a découvert à Rafah repousse toutes les limites. Il évoque un sentiment d'effroi qu'il a saisi en pénétrant dans l'enclave palestinienne.
La première chose qui est frappante, c'est les piétons, les personnes qui marchent dans la rue. Ils marchent dans la rue parce qu'en fait, les trottoirs sont jonchés de tentes, tous les espaces sont occupés et par des tentes et par des abris. Il y a plus de circulation automobile puisqu'il y a une pénurie de carburant. Les gens sont prisonniers d'un endroit dont ils ne peuvent pas sortir et dont ils se sont déplacés pour arriver dans un cul-de-sac.
1,5 million de Palestiniens sont agglutinés à Rafah. Les infrastructures de base, notamment de santé, sont détruites ou hors service. Quand il leur reste un peu d'argent, les gens se procurent quelques denrées à des vendeurs ambulants. D'autres fouillent les décombres à la recherche de nourriture.
Chaque recherche de nourriture d'eau est une quête qui les amène à prendre des risques incommensurables. Il y a eu des bombardements tellement intensifs qu'aujourd'hui on estime à 3 000 les restes explosifs de guerre qui ne sont pas explosés et qui jonchent le sol du chemin du retour pour ceux qui envisageront de retourner dans le nord.
Situation d'autant plus tragique que des kilomètres de camions chargés d'aide humanitaire sont toujours bloqués côté égyptien.
Le mois de février 2024 aura été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Il s'inscrit dans une série de 9 records mensuels consécutifs avec des températures très au-dessus des normales en Europe, notamment. À en croire les dernières informations du satellite européen Copernicus, la température des océans hors normes déjà depuis près d'un an contribue largement à ces records avec 21,06 degrés enregistrés en février à la surface des mers. Cette température océanique surpasse tous les records, un phénomène largement lié au gaz à effet de serre. C'est un pays d'Amérique du Sud chroniquement instable qui a connu une nouvelle péripétie politique en début de semaine au Pérou. Le Premier ministre a démissionné pour des soupçons de trafic d'influence. Il aurait facilité l'obtention de 2 contrats au sein du gouvernement à une femme avec laquelle il avait une relation. Une affaire de corruption de plus dans un pays où la défiance des Péruviens envers leurs élus atteint des sommets. Ces derniers mois, le Congrès, c'est-à-dire les députés qui suscitent particulièrement la méfiance de la population, n'ont cessé d'accroître leur influence dans les institutions péruviennes. Ce jeudi, ils pourraient s'attaquer à la plus haute institution judiciaire du Pérou, une perspective contre laquelle se sont mobilisées quelques centaines de personnes hier dans la capitale, où se trouve notre correspondante Juliette Chénion.
Devant le palais de justice de Lima, le message est clair, qu'il s'en aille tous ces corrompus. La démission du Premier ministre, soupçonné de trafic d'influence, surprend à peine.
Écoutez, la corruption, ça fait longtemps ici. On a un président qui s'est suicidé pour ça. 2 en prison, 2 mises en examen. Les ministres, pareil. Beaucoup sont en prison ou accusés.
Dans le cortège, des associations de défense des droits de l'homme, des militants de partis de gauche ou centristes, tous inquiets de l'instabilité politique. En 7 ans, le pays a connu 6 présidents. Aucun premier ministre n'est resté plus d'un an et demi à son poste, souvent tombé pour corruption.
Tout ce qu'ils veulent, c'est tirer des bénéfices, prendre tout l'argent du pays. Ils se moquent des Péruviens.
Les députés font des lois uniquement pour les mafias, pour qu'elles se développent encore plus.
Plus préoccupant encore, d'après Jenny Dador, secrétaire de la Coordination nationale des droits de l'homme, les députés votent ce jeudi pour destituer les membres de l'organe de justice indépendant le plus important du pays, chargé de nommer tous les magistrats et de chapeauter les élections.
S'ils y arrivent vraiment, nous n'aurons plus de démocratie. Il n'y aura plus de séparation des pouvoirs.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme se dit également préoccupé. Une telle décision affaiblirait une nouvelle fois la démocratie péruvienne.
Juliette Chénion.
7h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Ils avaient 6 mois pour se conformer aux nouvelles règles numériques de l'Union européenne. Les géants du numérique sont plus que jamais dans le viseur de Bruxelles.
Oui, Google, Amazon, Apple ou le chinois TikTok, 6 géants au total du numérique sont censés se conformer à la loi dite DMA pour Digital Market Act qui entre en vigueur aujourd'hui. C'est un nouveau texte réglementaire dont le but est de mettre un terme à leur abus de position dominante. Une situation dans laquelle se retrouvent très souvent les GAFAM et contre laquelle l'Union européenne a décidé de s'attaquer en particulier. Angélique Boin, correspondante à Bruxelles, nous explique ce qui va changer concrètement pour ces géants de la tech.
Si vous cherchez un billet d'avion, le moteur de recherche Google ne pourra plus vous orienter en priorité vers sa propre plateforme comme Google Flight. Fini aussi les applications installées par défaut sur votre téléphone ou tablette dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Apple, enfin, ne pourra pas imposer sa propre boutique Apple Store pour en télécharger ni son système de paiement. Et l'interopérabilité entre messagerie sera à terme possible. Un utilisateur de WhatsApp pourra dialoguer avec celui qui est par exemple sur Signal. Tout n'est pas encore entré en place et certains de ces géants du numérique, Apple en tête, rechignent à faciliter ainsi la vie des utilisateurs au détriment de ses intérêts économiques. Mais les pouvoirs de contrôle de la Commission européenne ont été renforcés. Toute entreprise non conforme s'exposera à des sanctions sévères, rappelle le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, qui raconte que ses services discutent depuis des mois avec leurs représentants pour leur faire comprendre que les règles du jeu ont changé. Les amendes pourront atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de ces entreprises, 20% en cas de récidive.
En France, Emmanuel Macron reçoit ce matin les chefs des partis politiques et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leur parler de la guerre en Ukraine. Réunion à huis clos à l'Élysée pour s'expliquer notamment sur sa prise de parole sur l'envoi de troupes en Ukraine jugée intempestive, sinon dangereuse par beaucoup d'élus. On y reviendra dans le journal de 8 heures. 20 milliards d'euros d'économies au moins, c'est ce que le gouvernement prévoit pour le budget 2025, après les 10 milliards déjà décidés pour 2024. C'est Bruno Le Maire, auditionné hier à l'Assemblée, qui a prévenu des économies qui seront sans doute réalisées en partie sur le budget de la Sécurité sociale. Et puis le ministre de l'Économie est revenu également sur le choc de simplification qu'il avait annoncé, simplification en particulier vis-à-vis des entrepreneurs. Deux mesures sont prévues pour cela, supprimer tous les formulaires administratifs d'ici 2030 et diviser par deux le code du commerce d'ici 2027. Annonce qui suscite le doute chez les juristes. Mathieu Buche-Berger est maître de conférence à l'Université Paris Panthéon Assas, spécialiste du droit des sociétés. Écoutez son analyse, il est joint par François Chéniaud.
Je pense qu'il y a un effet d'annonce avant tout. Le risque toujours, c'est de supprimer des règles très utiles. On peut supprimer des règles qui étaient lourdes, qui pèsent sur les entreprises, mais ces règles, souvent, elles visent aussi à défendre d'autres intérêts qui pourraient être lésés par une simplification qui ne serait pas suffisamment pensée. On a des exemples, hein, par le passé, les formalités pour les cessions de fonds de commerce ont été allégées avec une suppression de l'obligation de faire une publication dans un journal d'annonce légale. Ça a été réintroduit un an plus tard parce qu'on s'est rendu compte que c'était utile pour l'information des tiers. Puis après, il y a aussi les simplifications qui ne fonctionnent pas très bien. Toutes les entreprises vont pouvoir être immatriculées sur un même registre. Dans son esprit, c'est très positif, mais on se rend compte en pratique, les entreprises rencontrent énormément de difficultés. Il y a aussi la marge de manœuvre dont dispose le législateur, et évidemment, ce qui dépend du droit européen, le législateur ne va pas pouvoir y toucher, et notre droit des sociétés actuelles, il est en grande partie influencé par le droit européen, et la marge de manœuvre du législateur est assez limitée.
Une information scientifico-musicale pour terminer ce journal. Elle a été publiée hier soir dans une étude de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et de l'Université d'Aix-Marseille, qui se sont demandé pourquoi certaines musiques faisaient danser plus que d'autres. Autrement dit, peut-on mesurer scientifiquement le groove, c'est-à-dire l'envie spontanée de danser en musique, où il apparaît que certaines caractéristiques précises de la musique entrent bien en jeu dans l'acte de danser. Les précisions et les explications de Benjamin Morillon, directeur de recherche à l'INSERM, qui a piloté cette étude.
On a fait passer 30 participants en magnétoencéphalographie, un scanner de neuroimagerie qui permet d'enregistrer le champ magnétique produit par les neurones du cerveau, du cortex. Et on leur faisait écouter passivement les musiques. Pour l'expérience, on a utilisé des musiques de laboratoire, c'est-à-dire que si on met ça en soirée, pas grand monde dansera. Et ça nous a permis de mettre en évidence la dynamique qui se met en place entre les régions auditives et motrices. Ce qu'on a modifié, c'est pas la vitesse du rythme, c'est la complexité du rythme. Et on mesurait ça avec un taux de syncope. Donc une syncope, c'est un peu un contretemps dans la musique, une note qui tombe pas au moment prévu. Les musiques qui donnent le plus envie de danser, c'est celles qui ont un rythme ni trop simple, ni trop complexe. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un rythme compréhensible par le cerveau, qu'il arrive à comprendre le pattern, mais qu'il soit suffisamment complexe pour activer le cortex moteur. Dans le ragaton, c'est un rythme très simple, mais il y a une syncope, c'est parce qu'il y a un contretemps. Ce qui est typique pour les musiques syncopées, c'est le funk. Le funk, c'est l'exemple typique de la musique qui fait danser.
des propos recueillis par Louis-Valentin Lopez.
Je ne vous ai pas vu danser,
Guillaume. Moi, j'ai dansé, mais pas vous, j'ai vu.
Non.
Bon, on passe à la couleur du ciel de ce jeudi. Le soleil devrait s'imposer après une matinée parfois nuageuse. Côté température, 0 à 4 degrés ce matin en général, plus chaud sur les côtes. Comptez de 9 à 11 degrés cet après-midi aux frontières du nord-est, de 15 à 16 degrés sur le littoral méditerranéen, 17 à 20 au sud de la Garonne.
Bon, par ailleurs, la danse avec votre torticolis, c'est pas conseillé, Anne-Laure Chouin.
Voilà.
Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Qu'appelle-t-on les nouveaux OGM ?